Merci Seigneur, c'est beau ce qu'on vit, c'est vrai, c'est un privilège, et c'est vrai, c'est un privilège d'avoir cette équipe qu'on forme aujourd'hui avec les Sarkis et avec les Alépiens, et puis tous ces autres leaders aussi dans l'église. Moi, voilà, pour moi, c'est bien au-delà de ce que j'aurais pu rêver pour cette église que Dieu nous a demandé d'implanter il y a 10 ans. Quelle grâce! On prie ensemble, les amis? Il y a tellement d'enfants que même ils n'arrivent pas à franchir la porte du couloir. C'est le réveil. C'est derrière qu'il faut aller, en fait. Amen, Seigneur. Ben, Seigneur, merci. Oui, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour le temps qu'on vient de vivre dans la Sainte-Seine, Seigneur. Jésus, c'est tellement bon de revenir à l'essentiel, à ce jardin de Gethsémané. Merci, merci, Seigneur, parce que ce que tu as commencé dans un jardin, tu l'as terminé dans un jardin, et au milieu, il y a un autre jardin, Seigneur, de Gethsémané. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, que tout ce qu'il y a autour ne remplace jamais cela, Seigneur. Notre réalisation, notre compréhension, le fait qu'on reçoive la grâce que tu as manifestée au prix de ta vie, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'honorons ce matin. Amen. Du coup, juste avant de commencer mon message, je voulais vous reparler de la conférence Cœur du Père qui se tient le dernier week-end de novembre, le vendredi soir et le samedi. Pourquoi je vous en reparle? Parce que c'est hyper important. Vous avez vu passer ça dans le slide. Julianne et Katia qui viennent enseigner pour cet événement. Voilà, on l'a déjà dit sur WhatsApp, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas vu. Vraiment, c'est un événement à ne pas manquer. C'est un énorme privilège de pouvoir les avoir. Ils sont aux États-Unis d'habitude, ils habitent à Boston, mais ils sont obligés d'être 3 mois en dehors des États-Unis. Et pendant leur mois, 1 mois, ils passent en Angleterre, ils viennent nous voir. Voilà, je vous encourage vraiment à mettre ça à part. Sachez-le, il y a des gens un peu dans la France entière qui veulent s'inscrire à cette conférence, mais pour l'instant, on les retient. Pour l'instant, c'est encore réservé à l'assemblée à notre assemblée, à Paris aussi, CVV et Connect Grenoble. Mais voilà, je vois toutes les inscriptions, ça arrive sur mes mails et je vois qu'il y en a qui arrivent à avoir le lien, qui ne sont pas dans nos assemblées. Donc là, je pense qu'on doit être à 130, 140 inscrits dans ces eaux-là. Il y a 280 places. Les amis, je vous le dis, inscrivez-vous cette semaine. Ça ne vaut pas cher, c'est 25 euros. Nous, quand on va en Angleterre à des conférences, c'est au moins 100, 110 euros pour le même nombre de sessions. Donc c'est vraiment pas cher. Il y a des billets demi-tarif pour les 15-17 ans qui sont vraiment motivés. Et aussi si tu veux être bénévole, mais vraiment je vous le dis, inscrivez-vous cette semaine, ça va être compliqué ensuite pour avoir des places, donc ne tardez pas. Julianne est un ministère prophétique incroyable, ceux qui l'ont déjà vu à l'œuvre le connaissent, et en plus de ça c'est un ami cher, c'est un homme tellement rempli d'amour et d'honneur. Voilà, puis son épouse Katia qui a vraiment une onction dans l'enseignement fabuleuse. Donc vraiment, je vous l'ai dit, on ne pourra pas garantir les places très longtemps. Donc un conseil d'amis, inscrivez-vous cette semaine et au moins vous êtes sûr d'avoir votre place. Et ben c'est parti pour ce magnifique message. Donc comme Hélo l'a dit, voilà, on continue sur la réconciliation. Et dans cette série sur la réconciliation, il y a une mini-série sur la réconciliation homme-femme et notre volonté vraiment de clarifier notre position à l'Église Connect sur l'ancienat féminin qui pour nous est ce qu'on vit depuis 9 ans qu'on a implanté l'Église. On n'a jamais eu de reconnaissance de ministère d'imposition des mains, mais c'est quelque chose qui est planifié pour dans les mois à venir. Et voilà, donc pour ceux qui étaient au week-end de rentrée, on a pu commencer ça ensemble. Emmanuel a continué, c'était il y a 15 jours ou 3 semaines. Et aujourd'hui, on va clôturer cette mini-série dans la série. Donc je vous fais accrocher vos ceintures, j'ai pas envie de passer des heures sur le résumé des 2 premiers messages, mais je vous fais un petit aperçu quand même pour qu'on soit tous ensemble, parce que j'ai vraiment à cœur qu'on finisse en priant tous ensemble et en passant un bon moment. Oui, on va aborder aujourd'hui certains passages qui font beaucoup polémique sur ce sujet, mais voilà, j'ai vraiment pas envie qu'on s'attarde seulement là-dessus, mais qu'on puisse vraiment finir ensemble, prier ensemble et voir d'autres passages aussi qui me tiennent très à cœur pour ce matin. Donc qu'est-ce qu'on a vu au week-end de rentrée? On a vu que hommes et femmes ensemble, Genèse 1, Adam et Ève reçoivent tous deux les mêmes instructions Les amis, je ne sais pas s'il y a la clim qui a été allumée, mais j'ai un courant glacé qui me vient dessus. Je ne sais pas si c'est possible d'arrêter au moins ce split. Ça serait super sympa, sinon je mets mon pull, hein, ce n'est pas très grave. Mais du coup, on a vu dans Genèse 1 que Adam et Ève reçoivent tous deux les mêmes inscriptions dans Genèse 1, sans distinction liée au genre. C'est ensemble qu'ils sont appelés à accomplir la mission que Dieu donne. On a vu Genèse 2 avec ce fameux mot désert, aide, qui est cité 15 fois sur 19 dans la Bible pour qualifier Dieu qui aide. Et que quand Dieu dit qu'il donne Ève comme aide à Adam, c'est pas, il ne lui donne pas une femme de ménage ou, quelqu'un qui, ou une secrétaire. Non, que Ève n'est pas une assistante, c'est la mutuelle. C'est Ézer, c'est quelqu'un en position de puissance et d'autorité qui vient aider quelqu'un d'autre, comme c'est le cas quand Dieu le fait pour nous. Donc elle n'est pas une assistante, mais c'est la mutualisation de leurs deux appels qui permet d'accomplir le mandat divin. C'est homme et femme que nous sommes ensemble à l'image de Dieu. Amen. Et on avait vu dans Genèse 3 ce fameux, donc c'est après la chute ensuite, et ce fameux verset qui dit « Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Et quand il s'agit de désir, il s'agit là de désir malsain, et te dominera, ben oui, c'est la première fois là qu'il y a une hiérarchie qui apparaît dans la parole de Dieu entre l'homme et la femme. Avant ça, dans la création de Dieu, il n'y a pas de hiérarchie, c'est ensemble que le mandat de régner et d'assujettir la terre leur est donné. Donc le plan de Dieu pour Adam et Ève, c'est dans la mutualité. Et mon Emmanuel nous a partagé brillamment il y a 15 jours sur Jésus et les femmes. Ça nous aide à mieux comprendre que voilà, Jésus est venu restaurer toute chose. Jésus est venu restaurer ce qui avait été volé au moment de la chute. Et on voit comment Jésus se comporte avec les femmes. Et elle a cité plusieurs exemples. Qu'il est, oui, ami avec les femmes, qu'il les considère aussi comme ses disciples. Elle a expliqué plusieurs histoires qui le montrent. Qu'elles sont envoyées comme des témoins. Qu'elles faisaient partie des 120 dans la chambre haute. Et que toutes les premières fois où Jésus s'est révélé, ça a été à travers des femmes, et que les premiers témoins, les premières témoins de la résurrection, c'était des femmes. Ce sont les premières à qui il a confié le mandat d'annoncer sa résurrection. En tant que telles, elles ont eu ce mandat apostolique. Donc voilà, ça renverse un peu bien des raisonnements qu'on peut avoir suivant l'arrière-plan dans lequel on a grandi. Moi, c'est le cas. Moi, j'ai grandi dans une famille d'église où ce n'est pas ce qui est enseigné. Et ce qu'on a dit vraiment la dernière fois, c'est moi qui avais fait l'intro, c'est qu'on a totalement le droit de ne pas être d'accord. On n'est pas là, nous, pour vous dire ce que vous devez croire. On est là pour dire, par contre, ce que Dieu nous a révélé et en tant qu'équipe, dans quelle direction et de quelle manière on veut conduire cette église. Et on peut très bien être en désaccord, mais dans l'honneur, dans le respect mutuel et dans la liberté qu'on se laisse les uns aux autres, et qu'il y a il y a différents niveaux de thèmes dans l'Église, et il y a des choses qui sont gravées dans le sang, comme le salut par la foi, dans la grâce de Dieu, comme le baptême d'eau, le baptême d'esprit, les dons de l'esprit, les ministères, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui portent à polémique. Et il y a d'autres choses où, en tant que mouvement d'église ou en tant qu'église, eh bien, on se positionne. Ça en fait partie. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va aborder Paul et les femmes. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous les avez avec vous. Ça serait, qu'est-ce que c'est bon de lire la Bible. On en reparlait ce matin avec Olivier pendant notre jogging et on se disait, mais vraiment, qu'est-ce que c'est important d'être ancré dans la parole. Et on a beaucoup étudié pour aborder ces messages-là. Et je vous encourage, les amis, plongez-vous dans la parole au quotidien. Si tu es disciple de Christ, tu ne peux pas être disciple de Christ et pas être dans la parole chaque jour que Dieu fait. Dans la parole et dans la prière. Les amis, vraiment, on le chante, hein, l'établi est pris chaque jour. Ce n'est pas qu'une petite chanson pour enfants. Il faut que ça soit notre quotidien de disciple. C'est de là qu'on peut être conduit par l'Esprit et qu'on peut avancer dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Donc, 1 Timothée 2, verset 11. Je vais traiter, il y a plusieurs passages polémiques sur ce thème-là et je vais en aborder deux ce matin. Donc voilà le premier, 1 Timothée 2, versets 11 à 15, que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur un homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, et elle a désobéi aux commandes de Dieu, mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, l'amour et dans une vie sainte en gardant en tout le sens de la mesure. Donc il y a un expert, un commentateur expert du Nouveau Testament, très connu, hein, il y a plusieurs bouquins de lui à la CLC, Ben Witherington. Voilà, vous avez la chance d'avoir un bon accent pour dire son nom. Ben Witherington, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Un texte sans contexte est juste un prétexte pour lui faire dire ce qu'on veut ». Et c'est vraiment très important de comprendre le contexte dans lequel Paul a dit ces mots. Paul, donc, il s'adresse à Timothée, à son disciple. C'est son père spirituel, Paul. Et Timothée, où est-ce qu'il habite ? Il habite à Éphèse, l'actuelle Turquie. Il est leader de cette église, de ce centre apostolique qui est l'église d'Éphèse. Il lui dit dans 1 Timothée 3, « Je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi. » Et oui, si vous lisez 1 Timothée, il y a des hommes qui sont cités qui amènent des fausses doctrines dans l'église, mais on peut comprendre aussi, quand on lit tout le passage, qu'il y a aussi des femmes, notamment 1 Timothée 5, 11, je ne vais pas tout vous lire, mais il parle de veuves qui sont plus jeunes, et à la fin de ce petit paragraphe, il dit « Il y en a, donc des veuves, hélas, déjà plusieurs qui se sont détournées du droit chemin pour suivre Satan ». Donc on sait qu'il y avait des problèmes avec ce type de femmes, entre autres dans cette église d'Éphèse. Et ce qui est important, je voulais vous montrer une photo et je ne l'ai pas fait, mes excuses, mais c'est de comprendre que la ville d'Éphèse, c'était une grosse ville hein, pour l'époque en Turquie d'époque, et elle était dominée par un temple qui existe toujours aujourd'hui quand vous visitez les ruines d'Éphèse, et c'est le temple de la déesse Artémis. C'est un peu, pour ceux qui connaissent Nîmes, la Maison Carrée ou le Parthénon à Athènes, si vous avez déjà vu des photos de ces grands temples grecs, un énorme temple comme ça, c'était la religion de la ville d'Éphèse ou de cette région-là, c'était la déesse Artémis ou Diane pour les Romains à Nîmes aussi, je suis nîmois, je connais, il y a le temple de Diane à Nîmes, donc c'est pareil. Et le culte d'Artémis, c'était vraiment cette religion majeure dans la ville. Ça, c'est le contexte dans lequel l'église d'Éphèse a été implantée. Et qu'est-ce qui est intéressant de voir sur le culte à cette déesse Artémis, c'est que ce culte était contrôlé par les femmes. Des femmes vierges qui ne partageaient pas le leadership avec les hommes. Elles étaient d'accord de le partager seulement si, vous m'avez compris, ils étaient... privé de quelque chose de très important. Et ça, c'était la culture religieuse à l'époque où l'église d'Éphèse est née. Et donc le fameux Ben Witherington, ce commentateur à nouveau, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il est le contexte là, c'est qu'il y a des femmes dans cette église de haut rang qui s'attendent à jouer un rôle religieux dans les réunions chrétiennes, mais qui n'ont pas encore été enseignées correctement dans l'enseignement des apôtres. En gros, les femmes étaient habituées à avoir vraiment un rôle très important dans cet ancien culte. Elles viennent à Christ, mais il y a tout un travail de comprendre les bonnes doctrines enseignées par les apôtres, et qu'avant que ce travail est fait, ça cause des soucis. Elles viennent avec une mauvaise influence, en gros. On a parlé de... j'en reparle après, mais de cette influence hein, de l'ésère que la femme a, comme Ève a eu, comme on a lu au début, eh bien, elles viennent avec ce mauvais côté de cette influence. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce contexte. Donc il dit, on vient de le lire, « Permet pas à la femme d'enseigner ». Et pourtant, voilà, on se dit, mais il doit y avoir un souci avec cet enseignement. Pourquoi enseigner ? Parce que Paul, il y a plein d'autres endroits où il encourage les femmes à enseigner. Et même quand il s'agit d'hommes, par exemple 2 Timothée 2, verset 2, c'est un de mes versets préférés. « L'enseignement, Paul dit à Timothée, que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'instruire d'autres. » Là, en grec, quand vous lisez ce verset, ce n'est pas écrit des personnes, c'est écrit des hommes. Pour le coup, il dit des hommes. Mais on sait très bien que l'enseignement n'est pas quelque chose qui est réservé à l'homme, c'est quelque chose qui est partagé. Voilà, on va le voir encore après par rapport au ministère. Mais il y a plein de femmes qui enseignent, et même des femmes qui sont encouragées par Paul, comme Priscille, comme bien d'autres. Donc, mais pourtant, la traduction Semeur là a choisi de dire personne, parce que voilà, c'est quelque chose qui est consensuel maintenant dans beaucoup d'endroits, pas partout. Hein. Il y a des églises où les femmes ne peuvent pas enseigner. En tout cas, chez nous, c'est quelque chose qui est quand même acquis, qu'on reconnaît le ministère d'enseignement et le don d'enseignement aux hommes comme aux femmes. Voilà, on reviendra dessus juste après. Et donc, qu'est-ce qu'on a lu ? On a lu que ces femmes, elles prenaient autorité sur les hommes. Donc, je relis. Voilà. D'enseigner, c'est pas d'enseigner, en fait, qui permet pas. C'est je permets pas à les femmes d'enseigner en prenant autorité sur les hommes. Donc, c'est pas n'importe quel type d'enseignement. C'est un enseignement qui pose problème. Et alors là, j'ai découvert quelque chose d'incroyable en fouillant, c'est que ce mot autorité, prendre autorité, c'est la seule fois dans la Bible qu'il est utilisé. Le mot autorité est utilisé, bien sûr, des dizaines, voire des centaines de fois, j'imagine, mais ce mot grec-là, dans la traduction de la Septante, ce mot grec-là, c'est la seule fois. Et en fait, quand on regarde ce mot autorité en particulier là, eh bien, c'est un mot qui connote un abus d'autorité, en fait une autorité malsaine. Donc en gros, si on lit le texte, on lit « je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant une autorité malsaine, entre guillemets, sur l'homme ». Et là, tout de suite, c'est très différent. Donc voilà, il y avait des soucis avec des femmes qui abusaient d'une influence et d'une autorité malsaine, et c'est pour ça que Paul donne ses conseils pleins de sagesse à son disciple Timothée, pour l'aider, parce que je pense que ce n'est pas évident. Moi, j'ai 41 ans, je ne suis plus un gamin, mais je reste un leader assez jeune, on va dire. Et oui, ce n'est pas évident. Des fois, il y a des pressions. Alors nous, on a des femmes extraordinaires dans l'Église, donc ce n'est pas le souci. Mais je veux bien comprendre que Timothée était sous pression avec ses dérives qui pouvaient avoir se passer dans son Église, quoi. Voilà. Verset 13-14, voilà. L'influence néfaste d'Ève au moment de la chute. Ça, on en a déjà parlé, vous avez bien compris que Ève, voilà, c'est elle qui mange, qui prend le fruit défendu d'abord, qui le donne à Adam, et en ça, elle fait usage de son pouvoir d'influence, mais de manière négative. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le pouvoir d'influence que Dieu donne aux femmes n'est pas une bonne chose pour nous. Amen, messieurs. Si tu es marié ici, tu es obligé de dire amen, parce que sinon, soit tu reconnais, tu es honnête, soit sinon tu vas avoir des problèmes. Donc voilà encore pour ce passage-là. Et on valide totalement l'enseignement des femmes. On a des femmes qui font un travail extraordinaire dans ce domaine-là, d'autres aussi. Katia, d'ailleurs, qui vient pour la conférence, a vraiment un ministère d'enseignement. Voilà pour ce passage-là qui ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner, mais au contraire qui encourage les femmes à enseigner, mais dans le bon état d'esprit. Amen. Donc ça, c'était pour le premier passage. Et le deuxième, qui m'a posé encore plus de soucis, c'était pas facile. Hein. Et juste, voilà, en aparté, comme on l'a dit aussi les dernières fois, on ne prétend pas avoir la révélation ultime de tout, sur tous ces passages. C'est des convictions vraiment à force d'étudier qu'on a eues, et aussi c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 9 ans dans notre église, c'est comme ça qu'on fonctionne dans beaucoup d'églises aussi amies à nous. Moi, théologiquement pur, si tu es un technicien de la théologie, tu peux très bien prouver l'inverse. Et il n'y a pas de souci. Moi, des fois, j'entends des théologiens complémentariens, comme on appelle, d'ailleurs, c'est important de lire les deux façons de voir les choses. Et j'ai dit, mais oui, je comprends. Quand expliqué comme ça, effectivement, moi aussi, je dis, ah ben oui, c'est vrai. Voilà. Il se trouve qu'au fur et à mesure de ces années, Dieu nous a conduits à voir les choses différemment. Et pour nous, on est vraiment en paix avec ça en tant qu'équipe. Et le deuxième passage, donc, c'est 1 Timothée 3. Au début du passage, donc je vous le lis, donc je crois que j'ai mis la version Semeur qui est celle qui m'a posé justement le plus de soucis. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant, donc là dirigeant c'est en grec, c'est épiscopos, hein, d'où vient le mot pape, tout ça c'est évêque, tout ça c'est vraiment dirigeant. aspire à être dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Et ancien, le mot, le rôle d'ancien dans l'Église, c'est aussi de ce terme qui vient. Quoi. Il y a plusieurs mots, en fait, mais c'est cette tâche-là qu'il décrit. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi, vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. Car comment un homme ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler ni par orgueil, ni ne tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Et c'est sûr que si tu lis ça comme ça, c'est difficile de penser que l'ancienat féminin est biblique. Et en fait, je vais vous lire la suite. Non, je vais rester là-dessus. Je suis désolé, j'ai pris des bouquins pour vous montrer un peu que j'ai vraiment étudié. C'est la preuve. Hein. Il y a une dame, la marraine d'Emmanuel, qui m'a offert ce Nouveau Testament traduit en grec. Et c'est extrêmement utile pour la préparation des messages. Je vous le conseille, les amis. Ça coûte très cher. Je suis très content qu'on me l'ait offert. Merci, Seigneur. Voilà. Voilà, c'est là. 1 Timothée 3. Donc, Christos, je pourrais lui donner ça, il irait le... Moi, je ne comprends rien, ça fait que des lettres bizarres, mais lui, il irait ça très bien. C'est ça qui est bien. Donc, 1 Timothée 3, hop, voilà. Comment je vais faire ça ? Non. En fait, qu'est-ce que je vous ai lu ? Je vous ai lu... Cette parole est certaine, il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Verset 2. Et là, je lis le verset 2 en grec. Tac. Si quelqu'un, c'est un peu bizarre hein, à lire comme ça, si quelqu'un à charge de surveillant aspire, c'est, on dirait Maître Yoda, vous savez, qui lit, belle œuvre il désire. Il faut donc le surveillant inattaquable être. Donc, là, le mot homme n'est pas écrit. En fait, la traduction à Semeur a rajouté le mot homme, mais là, il n'est pas écrit. Donc oui, c'est des il, hein, on est d'accord, mais le mot homme n'est pas écrit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certaines traductions, en fait, les traductions sont faites toujours, il n'y a pas toujours une objectivité parfaite, et certaines traductions sont faites dans un but d'amener un peu de la doctrine, je pense, quoi. Mais il y a des mots, justement, qui n'apparaissent pas dans le grec et qu'on trouve pourtant dans la traduction Semeur. Alors que si on lit le même passage dans la seconde, eh bien, bah après, ça dépend des passages. Hein. C'est pas toujours le cas avec la Semeur. Hein. Moi, j'aime beaucoup lire la Semeur, elle se lit super bien. Mais il se trouve que sur ce passage-là, bah, ça pose un souci de traduction. Parce qu'il y a des mots qui n'y sont pas. Tac. 1, 2, Timothée. Ah, purée. Voilà, 1 Timothée 3. Il faut donc que l'évêque hein, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. Voilà. Et le mot, en fait, le mot homme, là, n'y est pas non plus. C'est le il. Il faut donc que l'évêque soit marié. Alors, vous allez me dire, oui, mais Matthieu, il parle de mari d'une seule femme. Alors, ça peut être qu'un homme. Ça, c'est évident. Donc, relisons un petit peu avec de nouvelles lunettes. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, somme modérée, réglée dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Bon, je ne vais pas tout vous relire. Mais en gros, il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur le grec, et d'où est tiré d'ailleurs le français aujourd'hui, c'est que, enfin pas pour tous les mots, mais pour beaucoup, c'est que c'est une langue, en étudiant, on voit ça, qu'on appelle androcentrique. Et qu'en fait, androcentrique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots ou d'expressions qui sont mis au masculin de base. Par exemple, alors attendez. Voilà. Et par exemple, par exemple, vous avez des passages où il est dit ben voilà, que tous les hommes soient sauvés. Mais quand on entend que tous les hommes soient sauvés, évidemment, il s'agit des femmes aussi. Mais donc c'est homme, être humain. Mais il se trouve que c'est le mot masculin qui a été choisi. Donc ça, c'est très important quand on lit ces passages, c'est qu'il y a des histoires de culture, mais il y a aussi des histoires de langue, parce que la langue aussi fait la culture. Et du coup, il y a beaucoup d'expressions qui posent aucun souci ou qui sont mises au masculin, ben, comme quand Timothée, voilà, Paul l'enseigne par rapport aux hommes, eh bien, on comprend aussi femme, c'est être humain, et c'est vraiment que tous les enfants de Dieu sont capables d'enseigner. Ben oui, parce que sinon, comment tu enseignes tes enfants si tu n'es pas capable d'enseigner, que tu sois homme ou femme, même si tu n'es pas un leader dans l'église, hein, là, il s'agit de tout le monde. Donc, voilà. Et puis, il y a autre chose qui m'a marqué, que j'ai vu. Donc, je vais vous relire quand même la suite du passage. Dirige bien sa maison, qu'il soit un nouveau converti. Voilà, là, c'était la fin. Et puis après, ça passe au diacre. Diakonos, donc en fait, diakonos, ça veut dire serviteur, un service. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la dubicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, d'eux-mêmes, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, etc. Après, ça revient aux diacres. Les diacres doivent être des maris d'une seule femme. Donc, juste en deux secondes, le mari d'une seule femme, en fait, c'est une formule. C'est une formule qu'on retrouve de partout. Et en fait, oui, bien sûr, ça s'adresse à des hommes, mais vous savez qu'il y avait de la polygamie encore à l'époque. La polygamie a disparu plutôt vers la fin du 1er siècle. Donc, ce n'était pas une histoire seulement d'être un homme marié à une femme. C'est aussi et surtout une histoire de fidélité et de monogamie que Jésus enseigne. Donc ça, et moi il y a un truc qui m'a marqué en lisant ce passage, ça c'est pas une histoire de théologien, c'est moi simplement en lisant, j'ai dit mais il nous parle des anciens, hein, des épiscopos, ensuite il nous parle des diacres, et ensuite il dit les femmes, là il nous parle des femmes. Et beaucoup de théologiens disent c'est les femmes diacres. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de la version Sommer qui rajoutait des mots. La version Sommer, là, a encore rajouté un mot. Vous regardez le grec, il y a écrit les femmes. Vous regardez la version Sommer, il y a écrit les femmes diacres. Donc, en fait, la version Sommer a interprété le fait que quand Paul dit là les femmes, il parle des femmes diacres. Alors que si vous lisez le grec, c'est pas du tout les femmes diacres, c'est les femmes tout court. Donc, moi, je pense, mais ça, c'est moi personnellement, que il nous parle des anciens, il nous parle des diacres, ensuite il nous parle des femmes, et que pour moi, les femmes, ça peut correspondre à la première catégorie ou à la deuxième catégorie. Voilà, écoutez, moi je le lis comme ça, et j'en discuterai avec d'autres théologiens, mais pour moi ça paraît logique, et ça m'embête, c'est sûr que la version Sommer rajoute des mots là sur ces phrases-là qui n'existent pas, quoi, parce que ça pour le coup, ça biaise le sens complètement. Voilà. Encore une fois, j'aime trop la version Sommer, ma Bible d'études Excel 6. Merci Seigneur pour Excel 6. Ma Bible d'études, ils sont juste à côté en plus, donc il faut faire attention. merci Seigneur pour ces traductions. Donc voilà, donc je vais en finir, purée, c'est 55. J'en finis là, en fait, sur ce passage. Tac. Voilà, donc c'est important quand on lit ces passages de voir la culture, de voir la langue, de voir le grec. Pourquoi Jésus aussi, on pourrait dire, mais Jésus aussi, les hommes, il a choisi 12 hommes juifs. Oui, pourquoi? Parce que déjà, Jésus était juif et il a choisi 12 hommes. Ce chiffre 12 est vraiment très important. Et les 12 hommes, ça représente en fait les 12 tribus d'Israël. Il transmet, ça c'est l'Institut biblique et archéologique français de Jérusalem qui explique ça, qui se transmet cette bénédiction des 12 tribus et que les 12 disciples sont un reflet de ça. Donc voilà pourquoi il a choisi 12 hommes pour être dans cette lignée des racines juives de la foi, que le texte en grec est beaucoup moins masculin qu'il en ressort et que cette histoire de formule. Donc voilà pour ça, des femmes et non des femmes diacres. Être marié, d'ailleurs, ne peut pas être marié d'une seule femme, ça ne peut pas être un argument en soi. Pourquoi ? Sinon, ça veut dire que Jésus ne peut pas être ancien et Paul ne peut pas être ancien non plus. Ça ferme la porte aux hommes non mariés, quoi. Donc, nous, on croit que les hommes non mariés et les femmes non mariées peuvent être anciens. Donc voilà. Et du coup, ce qui m'a marqué aussi, c'est vraiment cette histoire des cinq ministères. Je ne vais pas vous relire, mais j'aime tellement Éphésiens 4. Là encore, il parle d'hommes. Dieu a fait des dons aux hommes, mais on comprend être humain. Et en fait, quand tu regardes les cinq ministères, eh bien, oui, il y a des femmes. Des fois, il n'y a aucun homme, d'ailleurs, qui est mentionné, enfin, dont le nom est donné. Mais on croit vraiment que les cinq ministères sont pour les hommes et pour les femmes. Et ben notamment, j'en cite un exemple qui pareil, a fait couler beaucoup d'encre, c'est cette fameuse Junia. Junia, donc saluer, donc ça c'est Romains 16, verset 7, saluer Andronicus et Junia, qui sont du même peuple que moi, ils ont été mes compagnons de captivité, ils sont très estimés en tant qu'apôtres, eux qui se sont même convertis avant moi. Et en fait, dans l'histoire de l'Église, hein, dans les 2000 ans, eh bien, on a essayé de transformer le nom Junia, qui est féminin, en Junias, qui est masculin. Et en fait, j'ai regardé, il y a des archéologues, etc., qui ont étudié les textes, et en fait, il se trouve que le prénom Junias, dans ces époques-là, n'existait pas. Le prénom masculin Junias n'existait pas. Alors que Junia, ce prénom féminin, vous en trouvez beaucoup dans ces époques-là. Donc non, Junia était bien une apôtre, et les cinq ministères sont bien, on le croit, pour les hommes et pour les femmes, pour l'édification du corps de Christ, afin que le corps de Christ, l'Église, arrive à sa pleine maturité. Mais on revient à la Genèse, c'est une évidence, c'est hommes et femmes qu'on est créés à l'image de Dieu, c'est hommes et femmes qu'on le représente, c'est hommes et femmes qu'on a le mandat de régner sur la terre et d'amener que tout le monde connaisse Jésus. Amen. Voilà, je vous lis, je suis désolé, j'aurai un peu quelques minutes de retard, mais je voulais quand même vous lire ça de Danny Silk, qui est un des anciens pasteurs de l'église Bethel en Californie, qu'on aime énormément et qui aujourd'hui a Jesus Culture à Sacramento, mais qu'on aime trop, ce cher Danny. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Lui, il est beaucoup plus expérimenté que nous dans tout ça. Les lettres de Paul à l'église de Corinthe et à Timothée, pasteur à Éphèse, sont des lettres servant de guide pour traiter de différents problèmes jaillissant principalement de culture païenne dans ces villes. En tant que lettres personnelles à des personnes spécifiques dans des lieux spécifiques, elles font référence à des correspondances antérieures et à une histoire personnelle auxquelles nous n'avons pas accès. Les théologiens et historiens tentent de tirer des conclusions éclairées sur ce que Paul voulait dire dans ses lettres, parce qu'une lecture littérale est clairement en contradiction avec le reste de ce que Paul et Jésus ont enseigné et pratiqué. Ça, c'est ce que Emmanuel nous a montré la dernière fois. Et Paul, parce que oui, parce que Paul, qu'est-ce qu'il dit aussi, au-delà de ces passages qui font polémique? Et ça, c'est parmi mes passages préférés dans la Bible, Galates 3, 26. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. C'est marrant, c'est pareil, il dit fils, parce que qui dit fils dit héritage. S'il dit fille, il n'y a pas héritage dans le judaïsme. Donc, hommes et femmes, on est fils de Dieu. Et nous, les hommes, on est l'épouse. C'est comme ça. Chacun a son adaptation à faire. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre juifs et non-juifs, les esclaves, les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Joël 3, que je vous ai lu à chaque fois que je vous relis, après cela, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations, et même sur les serviteurs et sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit. Donc la barrière là et la hiérarchie tombent encore avec ce passage qui s'est révélé vrai le jour de la Pentecôte. Et le dernier passage, c'est Thierry, pour ceux qui étaient à Equip hier, qui nous l'a redit. Ça m'a tellement parlé quand il l'a lu dans l'Apocalypse 1. Jean salue les sept églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui se tiennent devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Il a fait de nous un peuple de rois, un peuple de sacrificateurs. Et ça, c'est tous ensemble, c'est hommes et femmes ensemble. Le réveil se produit quand l'Esprit de Dieu vient. Et quand il vient, les divisions et les barrières que l'ennemi a construites sont détruites. Nous sommes tous enfants de Dieu, l'épouse de Christ. En Christ, le mandat qu'il donne aux hommes et aux femmes de co-régner sur la terre est restauré, sans hiérarchie ni domination liée au sexe, au statut social ou à l'âge. Le Père répand son esprit et avec une multitude de dons, de ministères dans lesquels il nous utilise chacun pour le salut de ce monde. Amen. Ça, c'est de moi. C'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut se lever et finir dans la prière ensemble ?